Serge Rénine ouvrit les trois fenêtres et en força les volets. Il se trouvait bien dans un salon, et ce salon n'offrait pas la moindre trace de désordre. Les sièges étaient à leur place. Aucun des meubles ne manquait. Les gens qui l'habitaient et qui en avaient fait la pièce la plus intime de leur demeure étaient partis sans rien emporter, ni des livres qu'ils lisaient, ni des bibelots rangés sur les tables ou sur les consoles. Rénine examina la vieille horloge de campagne, enfermée dans sa haute gaine sculptée, qui laissait voir, par une vitre ovale, le disque du balancier. Il ouvrit. Les poids, pendus aux cordes, étaient au bout de leur course. À ce moment, il y eut un déclic. L'horloge sonna 8 fois, d'une voix grave que la jeune femme ne devait jamais oublier.
« Quel prodige !»«
Un vrai prodige, en effet, car le mécanisme très simple ne permet guère qu'un mouvement d'une semaine. »
Et vous ne voyez rien de particulier ?
Non, rien. Ou du moins... Il se pencha, et du fond de la gaine, il tira un tube de métal que les poids dissimulaient et qu'il tourna vers le jour.
Une longue vue. Pourquoi l'a-t-on cachée là ?
Et on l'a laissée dans toute sa longueur ? C'est bizarre. Que signifie ? Une seconde fois, selon l'habitude, l'horloge se mit à sonner. 8 coups retentirent. Rénine referma la gaine et, sans se dessaisir de la longue vue, continua son inspection. Une large baie faisait communiquer le salon avec une pièce plus petite, sorte de fumoir, meublée elle aussi, mais où cependant il y avait une vitrine à fusil dont le râtelier était vide. Accroché au panneau voisin, un calendrier montrait une date, le 5 septembre.
Ah ! La même date qu'aujourd'hui ! Ils ont arraché les feuilles de leur calendrier jusqu'au 5 septembre. Et c'est l'anniversaire de ce jour. Quel hasard inouï !
Inouï ! C'est l'anniversaire de leur départ. Il y a aujourd'hui 20 ans.
Avouez que tout cela est incompréhensible.
Oui, évidemment. Mais tout de même...
Vous avez quelque idée ?
Il répondit au bout de quelques secondes.
Ce qui m'intrigue, c'est cette longue vue cachée, jetée là au dernier moment. À quoi servait-elle ? Des fenêtres du rez-de-chaussée, on ne voit que les arbres du jardin, et sans doute aussi de toutes les fenêtres. Nous sommes dans une vallée, sans le moindre horizon. Pour se servir de cet instrument, il fallait monter tout en haut. Et voulez-vous que nous montions ?
Elle n'hésita pas. Le mystère qui se dégageait de toute l'aventure excitait si vivement sa curiosité qu'elle ne songeait qu'à suivre Rénine et à le seconder dans ses recherches. Ils montèrent donc l'escalier principal et parvinrent au second étage, sur une plateforme où s'amorçait l'escalier en spirale du belvédère. Là-haut, c'était une terrasse en plein air, mais entourée d'un parapet qui s'élevait à plus de 2 mètres.
Cela devait former autrefois des créneaux que l'on a remplis depuis, remarqua le prince Rénine.
Tenez, il fut un temps où il y avait des meurtrières. Elles ont été bouchées.
En tout cas, ici également, la longue vue était inutile. Et nous n'avons plus qu'à redescendre.
Je ne suis pas de votre avis.
Logiquement, il devait y avoir quelque échappée sur la campagne. Et logiquement, c'est ici que la longue vue était utilisée.
À la force des poignets, il se hissa jusqu'au faîte du parapet. Et il put voir que de là, on apercevait toute la vallée, le parc, dont les grands arbres limitaient l'horizon. Et assez loin, au bout d'une coupure dans une colline boisée, une autre tour en ruine très basse, emmaillotée de lierre, et qui était peut-être à 700 ou 800 mètres de distance. Rénine reprit son examen. On eût dit que pour lui, tout le problème se résumait dans l'emploi de la longue vue,
et que ce problème serait immédiatement résolu si l'on pouvait découvrir la façon dont elle était employée. Il étudia une à une les meurtrières. L'une d'elles, ou plutôt l'emplacement de l'une d'elles, attira surtout son attention. Il existait au milieu de la couche de plâtre qui devait servir à la boucher un creux rempli de terre et où des plantes avaient poussé. Il arracha ces plantes et enleva cette terre, ce qui débarrassa l'orifice d'un trou de 20 cm de diamètre qui perçait le mur de part en part. S'étant penché, Rénine constata que cette fissure, étroite et profonde, dirigeait fatalement le regard par-dessus le sommet tassé des arbres et suivant la coupure de la colline jusqu'à la tour de Lierre. Au fond de ce conduit, dans une sorte de rainure qui courait comme une rigole, la longue-vue trouva sa place, et si exactement qu'il eût été impossible de la bouger, si peu que ce fût vers la droite ou vers la gauche. Rénine, qui avait essuyé la partie extérieure des lentilles, tout en prenant soin de ne pas déranger d'une ligne le point de mire, appliqua son œil au petit bout de l'instrument. Il resta 30 ou 40 secondes, attentif et silencieux. Puis il se releva et prononça d'une voix altérée « C'est effroyable. En vérité, c'est effroyable.
Qu'y a-t-il donc ?
Regardez. » Elle se courba, mais pour elle, l'image n'étant pas nette, il fallut mettre l'instrument à sa vue. Presque aussitôt, elle dit avec un frisson
« Ce sont deux épouvantails, n'est-ce pas ? Tous deux perchés là-haut ? Mais pourquoi ? » ?»«
Regardez, regardez plus attentivement. Sous les chapeaux, les visages. » »«
Oh ! Quelle horreur !»
Le champ de la lunette offrait, découpé en rond comme une projection lumineuse, ce spectacle. La plateforme d'une tour tronquée, dont le mur, plus haut dans la partie la plus éloignée, formait comme une toile de fond, d'où déferlaient des vagues de lierre. Devant, au milieu d'un fouillis d'arbustes, deux êtres, un homme et une femme appuyés, renversés contre un écroulement de pierre. Mais pouvait-on appeler homme et femme ces deux formes, ces deux mannequins sinistres qui portaient bien des vêtements et des vestiges de chapeaux, mais qui n'avaient plus d'yeux, plus de joues, plus de menton, plus une parcelle de chair, et qui étaient strictement et réellement deux squelettes.
Deux squelettes habillés. Qui les a transportés là ?
Personne.
Cependant,
cet homme et cette femme ont dû mourir en haut de cette tour il y a des années et des années. Et sous les vêtements, les chairs se sont pourries. Les corbeaux les ont dévorés.
Mais c'est affreux, c'est affreux !
Dit Hortense, qui était toute pâle et dont la figure se crispait de dégoût. Une demi-heure plus tard, Hortense, Daniel et Serge Rénine quittaient le château de Halingre. Avant de partir, ils avaient poussé jusqu'à la tour de Lierre, reste d'un vieux donjon aux trois quarts démoli. L'intérieur était vide. On devait y monter, à une époque relativement récente, par des échelles et des escaliers de bois dont les débris gisaient sur le sol. La tour s'adossait au mur qui marquait l'extrémité du parc. Chose bizarre et qui surprit Hortense, le prince Rénine avait négligé de poursuivre une enquête plus minutieuse, comme si l'affaire eût perdu pour lui tout intérêt. Il n'en parlait même plus. Et dans l'auberge du village le plus proche, où on leur servit quelques aliments, ce fut elle qui interrogea l'aubergiste sur le château abandonné. Vainement d'ailleurs, car cet homme, nouveau dans la contrée, ne put fournir aucune indication. Il ignorait même le nom du propriétaire. ils reprirent la route de la Marèze. Plusieurs fois, Hortense rappela l'ignoble vision contemplée. Mais Rénine, très gaie, remplie de prévenance pour sa compagne, semblait tout à fait indifférent à ces questions.
« Enfin quoi ? Il est impossible d'en rester là. Une solution s'impose. »
« En effet, une solution s'impose. Il faut que M. Rossigny sache à quoi s'en tenir et que vous preniez une décision à son égard. » Elle haussa les épaules.
« Mais il s'agit bien de cela. Pour aujourd'hui. »
« Pour aujourd'hui ?
Il s'agit de savoir ce que c'est que ces deux cadavres. »
« Cependant, Rossigny... »«
Rossigny attendra, mais moi, je ne peux pas attendre. »«
Soit. » »« D'autant plus qu'il n'a peut-être pas encore fini de réparer ses pneus. »«
Mais que lui direz-vous ?
C'est cela, l'essentiel. »«
L'essentiel, c'est ce que nous avons vu. »« Vous m'avez mis en face d'un mystère en dehors duquel rien ne compte plus. »« Voyons, quelles sont vos intentions ?»«
Mes intentions ?
Eh oui !» « Voici deux cadavres. Vous allez prévenir la justice, n'est-ce pas ?»«
Bonté céleste, pourquoi faire ?»«
Mais il y a là une énigme que l'on doit à tout prix éclaircir. Un drame effrayant !»«
Nous n'avons besoin de personne pour cela. »«
Comment ? Que dites-vous ? Vous y comprenez quelque chose ?»«
Mon Dieu, à peu près aussi clairement que si j'avais lu dans un livre une histoire longuement racontée avec illustration à l'appui. Tout cela est d'une simplicité. » Elle l'examina du coin de l'œil, se demandant s'il se moquait d'elle. Mais il avait l'air fort sérieux.
« Et alors ?»
Le jour commençait à baisser. Ils avaient marché rapidement, et lorsqu'ils approchèrent de la Marèze, les chasseurs s'en revenaient. «